un personnage mystérieux vit complètement seul et isolé. Dans son désir de rentrer en contact avec ses semblables, il tente de gravir une longue et obscure galerie.
Deux heures au moins s'écoulèrent avant que j'eusse atteint ce qui devait être mon but. Un château vénérable, couvert de lierre, au sein d'un parc cerné d'un bois épais, atrocement familier, pourtant empreint pour moi d'une incompréhensible étrangeté. Les douves étaient pleines, et plusieurs des tours trop connues étaient démolies, tandis qu'on avait édifié de nouveaux bâtiments, de nouvelles ailes pour confondre le spectateur. Mais ce que je vis avec le plus d'intérêt et de joie, ce furent les fenêtres ouvertes, merveilleusement scintillantes de lumière, et d'où me parvenaient les sons d'une fête joyeuse. M'avançant vers une porte-fenêtre, je regardais à l'intérieur. J'aperçus une compagnie aux atours curieux, en train de s'amuser, de rire et de s'ébattre bruyamment. Sans doute n'avais-je jamais entendu le son de la voix humaine, car je ne compris que vaguement ce qui se disait. Certaines des têtes semblaient avoir des expressions qui réveillaient en moi des évocations et des souvenirs incroyablement anciens. D'autres personnes m'étaient totalement étrangères. Je pénétrais par cette porte dans la pièce brillamment illuminée, se faisant passer au même moment de l'espoir le plus heureux aux convulsions du désespoir le plus noir, à la prise de conscience la plus poignante. Le cauchemar s'empara immédiatement de moi. Dès que j'entrais, j'assistais à l'une des manifestations les plus terrifiantes qui m'aient jamais été données de voir. Je passai le seuil que s'abattit sur toute l'assemblée une terreur brutale que n'accompagna pas le moindre signe avant-coureur, mais d'une intensité impensable, déformant chaque tête, tirant de chaque gorge ou presque les hurlements les plus horribles. Tout le monde s'enfuit aussitôt, et dans les cris et la panique, plusieurs personnes tombées en convulsions furent emportées loin de là par leurs compagnons affolés. J'en vis même plusieurs se cacher les yeux de leurs mains et courir de la sorte, aveugles et inconscients, se cognant au mur, au meuble, avant de disparaître par l'une des nombreuses portes de la salle. Ces cris me glacèrent. Et je restai un moment comme paralysé dans la clarté éblouissante de cet endroit, seul, incrédule, gardant à l'oreille l'écho lointain de l'envol des convives terrifiés. Et je tremblais à la pensée de ce qui devait rôder à côté de moi, invisible. Au premier coup d'œil rapide que je jetais, la pièce me parut déserte. Mais en m'approchant de l'une des alcôves, j'eus l'impression d'y deviner une sorte de présence. L'ombre d'un mouvement derrière le cadre doré, d'une porte ouverte qui menait à une autre pièce assez semblable à celle dans laquelle je me trouvais. Approchant de cette arche, je perçus plus nettement cette présence. Et finalement, tandis que je poussais mon premier et dernier cri, une ululation spectrale qui me crispa presque autant que la chose horrible qui me la fit pousser, j'aperçus en pied, effrayant, vivant, l'inconcevable, l'indescriptible, l'innommable monstruosité qui, par sa simple apparition, avait pu transformer une compagnie heureuse en une troupe craintive et terrorisée. Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose.
C'était le reflet vampirique de la
peinture. Car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant.
C'était
important.
Les vampiriques de la pourriture.
Anormal et détestable de cette terre.
Inquiétant.
C'était le reflet vampirique de la pourriture. Des temps disparus et de la désolation.
J'étais presque figé.
Le fantasme putride et gras des goutures. d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue.
J'ai perçu plus nettement cette présence.
Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde, et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée,
rognée,
où transparaissaient des os comme un grotesque et ricanant travesti de la forme humaine.
Putride et gras dégoutures inquiétant.
Il y avait dans cet appareil pourrissant et décomposé une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus.
Elle était une combinaison horrible de tout ce qui...
J'étais presque figé, mais non incapable d'effectuer un effort pour m'enfuir. Je titubais en arrière, sans pour autant parvenir à rompre le charme sous lequel me tenait ce monstre sans voix et sans nom. Mes yeux, ensorcelés par ces orbites vitreuses qui se vrillaient ignominieusement dans les miennes, mes yeux se refusaient à se fermer. Certes, et j'en remercie le ciel, la vision qu'il me transmettait était voilée au moment du premier choc passé. Je ne distinguais qu'indistinctement cet objet terrible. J'essayais de conjurer cette vision en portant ma main devant mon visage, mais mes nerfs étaient dans un tel état que mon bras ne répondit qu'imparfaitement à ma volonté. Cette tentative me fit à moitié perdre l'équilibre et je basculai en avant et trébuchai de plusieurs pas pour éviter de tomber. Je me rendis soudainement compte, dans un moment d'agonie, que la répugnante charogne était à quelques centimètres de moi. Il me semblait en entendre la sifflante et caverneuse respiration. Presque fou, j'eus encore la force de tendre les bras pour écarter la fétide apparition si proche de moi, quand dans une seconde où les cauchemars du cosmos rejoignirent les accidents du présent, mes doigts entrèrent en contact avec la patte pourrissante et ouverte du monstre sous cet encadrement d'or. Non, ce ne fut pas moi qui hurlais. Tous les vampires sataniques qui chevauchent les vents nocturnes hurlèrent pour moi en même temps que dans l'espace de cette même seconde s'effondrait d'un seul coup sur mon esprit la cataracte, l'avalanche annihilante des souvenirs et que se rouvrait à m'en déchirer l'âme, ma mémoire. En cette seconde, je compris tout ce qui avait été. Je me souvins de ce qui avait précédé le château effrayant avec ses arbres, et je reconnus l'altier édifice dans lequel je me trouvais. Et je reconnus, et rien ne fut plus terrible, l'abominable malédiction qui ricanait devant moi, en même temps que je rompais le contact de mes doigts souillés avec les siens. Mais le cosmos recèle aussi bien le baume que l'amertume. Et ce baume est le Népenthès. Dans l'horreur suprême de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait horrifié. Et l'explosion de cette mémoire nocturne s'évanouit dans un chaos d'images, s'estompant en échos toujours plus lointains. Dans un rêve, dans un cauchemar, je m'enfuis en courant de cet endroit hanté et maudit. Je courus, rapide autant que silencieux, vers la lumière de la lune. Je retrouvai le cimetière peuplé de marbre, descendis les degrés, mais la dalle de pierre était impossible à ouvrir. Et je ne le regrettais pas, car j'avais haï cet antique château et ces arbres impossibles. Maintenant, je chevauche les vents de la nuit avec les vampires moqueurs et amicaux et joue le jour parmi les catacombes de Nefrenka dans la vallée secrète éclose de Hadot, près du Nil. Je sais que la lumière ne m'est pas destinée, sauf celle de la lune sur les roches tombales de Neb, et qu'aucune gaieté ne me revient sinon les fêtes sans nom de Nitocris sous la grande pyramide. Et pourtant, dans ma nouvelle condition, ma nouvelle liberté, j'accueille presque avec le sourire l'amertume d'être autre. Car quoique le Népenthès ait mis la main sur moi, je sais pour toujours que je suis d'ailleurs, un étranger en ce monde, un étranger parmi ceux qui sont encore des hommes. Et cela, je le sais, du moment où j'ai tendu la main vers cette abomination dressée dans le grand cadre doré, depuis que j'ai porté mes doigts vers elle et que j'ai touché une surface froide et immuable de verre lisse.
C'était « Je suis d'ailleurs », troisième et dernier épisode, une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft, avec Yves Koch, musique Florian Lardeux et Alex Bliquin, une réalisation L'Homme de Paille.